Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission féministe mensuelle « Y a pas que le 8 mars ». À la suite de notre émission du mois d'avril, qui montrait comment des enseignants se forment à parler de sexualité avec les jeunes, une émission qu'on vous propose aujourd'hui toute particulière, puisque nous avons été invités, Alicia et moi-même, à rencontrer un groupe de lycéens à la demande de leurs professeurs. Tous les jeudis, entre 12h30 et 13h45, un temps est consacré à des ateliers divers et variés, proposés par les élèves ou par les adultes du lycée Saint-Pierre. L'émission a été donc construite avec les jeunes suite à deux rencontres. Alors la première, le 8 mars, bah oui, c'est tombé comme ça, où nous avons échangé autour de la notion de consentement, et une deuxième rencontre dont le fruit vous est offert tout au long de cette heure. Alors, on fait vraiment rien dans les écoles ?
Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le portrait d'une génération, ou presque. C'est Païkan qui a donné la parole aux lycéens et lycéennes, ses camarades donc. Et puis, un thème un petit peu plus précis aujourd'hui, le consentement. Et puis, les jeunes se sont emparés de nos rubriques habituelles. Droit devant la revue de nos actus et culturels. Beau programme pour cette émission du mois de mai. Le portrait. Le féminisme vu par les jeunes. Aïe, on est quand même très curieuse de savoir ce qu'elles et ils ont à dire. On écoute ce reportage réalisé par Païkan.
Bonjour.
Et c'est ainsi que commence, comme tous les lundis, le portrait. Sauf que cette fois-ci, le portrait ne portera pas sur une personne, mais sur une génération, entre guillemets. Ont été interrogés plusieurs jeunes qui ont donné leur avis sur la question de l'image du féminisme et des moyens de transmission, notamment par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. On va commencer tout de suite par une question qui a été posée. Est-ce que les jeunes débattent entre eux et parlent beaucoup de ce sujet important que sont les disparités hommes-femmes ?
C'est pas qu'on s'en fout, c'est juste qu'on n'en parle pas. Enfin, c'est pas notre sujet principal de conversation.
Ah bon ?
Ah non, déjà, nous, on n'en parle pas entre nous. Enfin, ça dépend. Mais pas tant que ça. Si, des fois, on parle.
Ouais, si, que quand il y a un cas, quand il y a un cas particulier. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous, quand on est avec, quand on discute, enfin voilà, nos relations garçon-fille, il n'y a jamais de disparité ou de vraiment de trucs très visibles, hein, d'inégalité. Hein. Enfin, en tout cas, je ne les vois pas, moi.
La femme, donc, aurait exactement les mêmes avantages sociaux que l'homme pour nous. C'est étonnant, ça.
Bah, c'est-à-dire qu'à notre niveau, en fait, autant les inégalités entre adolescents, ça se voit pas trop, je pense. Mais surtout quand on arrive, qu'on va arriver là dans le monde du travail, tout ça, c'est sûr, oui, on en parle quand on parle d'histoire, on voit bien, même dans les autres pays, même si on reste sur le cas de la France, il y a encore des très larges différences entre les salaires hommes et femmes. Et à notre époque, je trouve que c'est pas très normal. Donc, c'est vrai qu'à notre échelle d'adolescents, on voit pas trop d'inégalités. Vraiment fille-garçon, mais je pense que ça vient surtout quand on entre dans le monde adulte et dans le monde de l'entreprise. Déjà, c'est là que viennent les plus grosses disparités.
Le marché du travail serait-il plus favorable aux inégalités ? D'ailleurs, ce n'est pas le seul à avoir une réflexion dans ce sens-là.
Bah, au lycée, non, mais dans la vie active, oui.
Dans la vie active, il y a les inégalités de salaire. Ça, c'est un truc qu'on n'a toujours pas résolu et je trouve que. C'est bête, parce que je vois pas pourquoi les femmes elles seraient moins payées que les hommes alors qu'elles fournissent le même travail, voire même un meilleur travail des fois.
Bah nous on est éco-lycée, donc je pense qu'on voit pas ça tous les jours, voilà. Mais je pense que ça va plus se voir en rentrant sur le marché du travail ou tout ça, mais pour l'instant à l'école ça se voit pas trop.
Alors je vous rassure, l'adolescent moyen n'est pas seulement vénal. Et l'on voit effectivement qu'il y a d'autres types de disparités, par exemple.
C'est un peu, comment dire, une atmosphère générale. On ressent encore aujourd'hui que les hommes, ils ont plus de place que les femmes dans la société. Et puis, il y a aussi un souci de parité qui est difficile à atteindre. Il y a souvent beaucoup plus d'hommes dans les hautes fonctions, même les hautes fonctions publiques, et les femmes, ben, beaucoup moins. C'est difficile déjà de... Par exemple, prenons l'exemple d'une élection, c'est déjà difficile en tant que femme de se présenter, parce qu'on se dit qu'on ne sera pas forcément écoutée. Et une fois qu'on se présente, bah, on n'arrive pas à avoir. On n'a pas forcément la crédibilité qu'on voudrait face aux gens. Alors que, au final, un homme ou une femme, c'est pareil.
Hein. Oui, c'est strictement pareil.
Mais ce n'est pas encore exceptionnel, elle n'a pas encore les mêmes droits que les hommes.
Qu'est-ce qu'elle a comme différence de droits ?
Ah ouais, merde, non, pas les droits.
En fait, il y a une égalité de droits, mais pas de faits.
Ouais.
Il y a une égalité de droits, mais pas de faits.
Ouais.
Ouais.
Par exemple, les inégalités de salaire.
Quand on a beaucoup parlé, on en parle un tout petit peu moins ces temps-ci, mais il y a eu un moment où on a beaucoup parlé du harcèlement de rue, et il y avait des personnes qui disaient c'est aussi un peu de la faute de la fille, comment elle est habillée, etc. Alors que, je veux dire, les garçons ont le droit de s'habiller comme ils veulent, alors pourquoi nous, on n'aura pas le droit de s'habiller comme on veut ?
C'est vrai.
On a le droit d'être une femme si on a envie d'être une femme.
Oh mince, ça fait quand même pas mal de disparités là, dis donc, d'un coup comme ça, sorti de nulle part. Mais du coup, vous êtes sûr que dans les rapports filles-garçons, il n'y a pas non plus de différence ?
C'est vrai que, enfin, dans la classe, les garçons, ils ont tendance à plus ouvrir leur bouche que les filles. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est vrai. Puis ouais, enfin, c'est toujours en fait les garçons qui sont là, qui sont un peu les chefs, et puis les filles, enfin, elles suivent, elles ont pas leur mot à dire.
Wow, après les témoignages unanimes, comme quoi il n'y aurait aucune différence à notre niveau, une parole toute seule, comme ça, isolée.
En fait, une fille, on la voit plus sage, qui fait pas de bêtises, qui élève pas la voix, et donc, soit si elle le fait, et ben on la prendra un peu comme une... On devra la remettre en place, alors qu'un garçon, s'il fait écouter sa voix, et c'est pas grave. Après, sinon, il y a aussi une autre vision qui fait que si une fille a dit ce qu'elle pense, qu'elle dit quelque chose de mal, et on lui dira rien, alors qu'un garçon, s'il dit ce qu'il pense, et on va lui demander son nom.
Alors, je dois vous avouer qu'en disant qu'il n'en parle pas du tout, c'est pas vrai. En fait, ils en parlent aussi un peu au lycée.
Quand on parle d'inégalité, par exemple, en économie, on en parle... On a une prof qui nous sensibilise un petit peu, mais entre amis, on n'en parle pas spécialement.
Oui, je trouve qu'on en parle un peu, et que je trouve que c'est un... Enfin, oui, on en parle, et je pense que, bon, après, il y a des valeurs qui sont transmises, après, est-ce que vraiment elles sont respectées, et est-ce que les gens les incorporent, en fait ? Moins sûr, mais je pense qu'on en parle, etc., et c'est bien. Enfin, il y a des choses, enfin, par exemple, ça, c'est dans le cas du lycée, et c'est plus... Justement, ça permet d'amener une réflexion, en fait.
Oui, c'est omniprésent, on en parle beaucoup, même dans les cours de sciences politiques, ou même en économie,
en anglais,
en histoire, on en parle réellement, et même on voit l'évolution de la position de la femme dans la société, et ça nous aide à comprendre où on en est aujourd'hui. Mais après, je pense que le lycée, il n'y a pas de souci à se faire avec ça, c'est plus dans les médias, ou même dans les valeurs qu'on nous transmette... Hors école.
Ouais, je pense qu'il y a une opposition. Enfin, par exemple, rien que par exemple, la place de la femme dans la pub et l'image qu'on en transmet, par exemple, je pense que c'est en adéquation avec ce genre de valeurs qu'on peut transmettre au lycée. Et je pense, du coup, les gens, je pense, finissent par choisir et ils ne choisissent pas forcément les bonnes valeurs, justement.
Ah, bilan mitigé de cette dernière intervention, car même s'il semble que les profs font leur boulot, heureusement, sinon on ne serait pas là, les médias et les moyens de communication traditionnels semblent avoir une influence non négligeable sur le tout. Et comme les transitions sont bien faites et que cette émission est bien faite...
Médiatisation, comme ouais. Les femmes par exemple, ou d'autres groupes, enfin je vois que ça parce que je connais que ce groupe. Et après c'est comme ça qu'en fait elles sont vues d'un mauvais œil. Et que du coup, on considère que leur cause n'est pas légitime, entre guillemets.
Et maintenant, le girl power, il est vraiment vu autrement. C'est vraiment... il a tellement évolué pour que les femmes aient des droits et une place dans la société que ça a fini par dénigrer la femme. Parce que les médias, ils se sont accaparés de l'idée du girl power pour vraiment sexualiser en fait l'image de la femme et la dénigrer, et voilà.
Et du coup, ça donne quoi comme image à la fin ?
Justement, à propos de ça, c'est vrai qu'il y a des garçons, j'en ai parlé, et bon, ils rigolaient, mais c'était... Enfin, on voyait qu'ils étaient quand même sérieux. Pour eux, les femmes, c'est... comme tu disais, c'est quelqu'un qui doit faire le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants, faire les courses, machin, pendant que les gars, ils sont tranquilles dans leur canapé à regarder la télé. Moi, je trouve ça inadmissible.
Ah, c'est bête, ça. Et la féministe, elle, on la voit comment ?
Comme une lutte. Enfin, maintenant, le féministe, en fait, devrait plus être vu comme une lutte. Enfin, légitime et pas juste comme une radicalité. Ou, enfin, bon, en gros, c'est la fille chiante qui vient, voilà. enfin qui protège surtout, qui est pas d'accord et voilà. Et je pense, enfin, cette image-là devrait évoluer aussi. Voilà.
Exact. Quand on parle de féminisme maintenant, c'est la fille qui, c'est plus on voit une domination de la femme et pas l'égalité homme-femme. Et c'est ça qui est quand même triste.
Le féminisme, tout ça, c'est quoi? Ça se mange?
Oula. Comment dire?
Bah après, ça dépend. Généralement, on en a une image. Comment expliquer? Bah c'est comme tout en fait. Quand il y a des débordements, il y a une image négative, mais je pense qu'il faut pas, il faut pas prendre ça vraiment très au sérieux. Je pense que si ce mouvement existe, c'est qu'il y a des revendications derrière. Donc il y a des choses qui doivent se faire. Donc je pense que c'est important que des personnes manifestent leurs avis et défilent pour qu'on leur donne raison, pour qu'on les écoute, quoi.
Pour l'instant, on est plutôt entre confusion et langue de bois. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'un chouïa plus clair?
Deux sortes de féministes. Genre, il y a celles qui veulent absolument l'égalité homme-femme sans aucune différence. Celles qui veulent la domination. La domination sur le sexe masculin, on va dire. Moi je pense que le féminisme, il faudrait surtout respecter l'équité en fait. Genre accepter la différence des femmes et. Comment dire? Le truc, c'est que c'est pas égalité. Justement, en fait, les femmes revendiquent le fait de... Comment?
Ouais. Niveau précision de définition, on repassera. Mais grosso modo, équité, égalité, c'est ça, mais c'est pas trop. On voit que c'est relativement vague et qu'on a un manque d'informations sur le sujet et un manque de précision. Mais j'aurais tout simplement posé la question suivante.
Est-ce que vous saviez qu'il y avait un comité féministe à Bourg?
Ah, absolument pas. Non.
Alors, pas du tout, non.
Voilà, génial.
Et du coup, est-ce qu'il y a une chance d'évolution ou pas du tout?
Après, les réseaux peuvent avoir un bon impact, mais ça changera pas tant que ça.
Merci, c'était la fin de la chronique. Bon, j'espère que vous avez compris que c'était une boutade et que l'émission n'est pas réellement terminée. Et puis de toute façon, si vous n'avez pas compris, vous n'êtes plus là, donc c'est pas grave, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'était un témoignage parmi tant d'autres, et en fait je l'ai tronqué, ce qui fait qu'on n'entend pas tout. Généralement, les réponses étaient plutôt dans ce genre-là.
En fait, je pense que l'affaire Westin a vraiment, je pense, ça a marqué, je pense, en fait, un tournant dans la libération de la parole de la femme, et je pense que maintenant, en fait, on en parle plus, et c'est une bonne chose, je pense. Et ça c'est vraiment en fait internet, enfin le mouvement c'est internationalisé, voilà, merci. Et je pense du coup c'est vraiment une bonne chose parce qu'il y a vraiment il y a des réactions un peu partout et je pense du coup ça peut faire avancer et on est certes peut-être un tournant, enfin j'espère, un tournant et que justement les choses ne peuvent aller qu'en progressant, enfin j'espère.
Un tournant dans lequel les réseaux sociaux peuvent avoir un rôle majeur. Selon les jeunes, bien sûr, parce que ceux qui savent pas s'en servir, c'est un peu plus compliqué. Mais ces réseaux sociaux servent à communiquer, échanger, débattre, mettre en valeur des actions. Et qu'en pensons-nous dans cette micro-révolution?
Enfin, j'espère.
Et le rôle des réseaux sociaux dans tout ça?
Je pense que ça peut avoir un rôle justement pour libéraliser en fait un petit peu tout ça et permettre en fait que tout le monde peut prendre la parole. Avant, enfin par exemple, on était obligé de parler dans des médias, les journaux, etc. et c'était plus difficile d'avoir la parole et de se faire entendre. Et maintenant, je pense avec les réseaux sociaux, il peut y avoir vraiment un phénomène de masse comme par exemple sur Twitter avec les hashtags. Et je pense du coup ça peut améliorer justement cette libération de la parole de la femme. Je vais y arriver.
Mais après, soit ça va faire avancer les choses, soit ça va juste aider à redresser l'image de la femme, je pense. C'est soit pile ou face, en fait, s'il n'y a pas de...
Oui.
On ne sait pas.
J'espère que ça va libéraliser.
Libéraliser la place de la femme dans la société.
Le problème, c'est que par exemple, pardon, si elles font une marche pacifique comme tout le monde fait, ça fera rien. Enfin, d'accord, ça va être médiatisé, mais tout le monde va dire ouais, c'est trop bien, on se serre les coudes pour les femmes, machin. Ça va devenir une petite mode, on va inventer un petit hashtag ou un truc comme ça sur Twitter, et au bout d'un mois, après, ce sera fini. C'est comme tout, ce sera juste éphémère.
C'est toujours un outil. Après, si c'est bien utilisé, c'est comme tout. Mais oui, ça permet de faire entendre sa voix. C'est toujours important. Après, faut vraiment que ça soit bien utilisé comme il faut. Faut pas qu'il y ait de dérive.
Moi, je pense que ça peut être un moyen pour s'imposer, pour parler, pour les femmes, pour s'imposer, pour faire une place. Mais c'est aussi les réseaux sociaux et Internet, c'est aussi un endroit où on voit beaucoup de choses pas très, comment dire, pas, enfin, pas hyper, je trouve pas mon mot, mais pas qui un peu qui abîme l'image de la femme, si je puis dire.
Dévalorisant.
Oui, voilà, dévalorisant.
Cliché.
Oui, cliché, les stéréotypes, tout ça.
Et c'est ainsi que mon créneau horaire s'achève bientôt. C'est pour cela que je vais devoir conclure. Alors, je vous rappelle que l'objectif de base était de créer le portrait d'une génération. Qu'en est-il au final ? Quel est le résultat ? Eh bien, c'est très simple. Nous avons d'un côté une génération qui suit l'actualité, qui est relativement connectée, comme que diraient certaines personnes. Mais au-delà d'être connectée, eh bien c'est tout. En fait, on a une réelle connexion, on a un apport d'informations, mais un intérêt qui reste mitigé et limité. Et en fait, les jeunes poussés sur le terrain de la réflexion vont vite avoir les moyens d'avoir une réflexion intelligente, poussée, avec différentes opinions et points de vue en fonction de la situation de chacun. Mais il n'y a pas d'intérêt propre et on ne va pas se mouvoir directement dans cette direction, à moins d'être particulièrement engagé. Et sur toutes les personnes que j'ai interrogées, très peu se sentent concernées pour l'instant par les inégalités. Alors, est-ce qu'elles sont normales pour nous ? Ne les voyons-nous pas ? Ou si ça se trouve, mieux, soyons un peu positifs dans la vie ? Est-ce qu'il n'y en a pas à notre niveau ? Est-ce que c'est uniquement le monde du travail qui exacerbe ces inégalités ? Le mystère demeure entier. En tout cas, une fois qu'on nous branche sur le sujet, il y a du répondant. Et ça, c'est intéressant. Donc, au final, des jeunes avec une culture, un potentiel de réflexion et une ligne sociale plutôt progressiste, mais malheureusement, une relative inertie. C'est pas de bol.
Non, c'est sûr que c'est pas de bol pour la relève féministe. Alors, vous l'avez entendu, les jeunes se posent beaucoup de questions et ont de l'espoir quand même, donc c'est déjà ça. Et vous êtes bien sûr Radio B, il n'y a pas que 8 mars, c'est une émission co-construite avec les jeunes du lycée Saint-Pierre. Alors, portrait d'une génération à nuancer quand même, puisqu'on aurait, on aurait peut-être pas eu les mêmes commentaires sur un radio-trottoir avec une diversité de jeunes, je dirais. En tout cas, vraiment un grand, grand merci à Païkan pour ce reportage qui est plein de spontanéité et plein d'humour.
Je tombe à ton et place aux adieux.
Jeanne Chéral, quand c'est non, c'est non.
C'est ça le consentement. On en a parlé pendant toute une séance du consentement, dire non, dire oui, sur le thème de la sexualité, mais pas que. On a parlé de plein de choses, du consentement des filles, mais aussi du consentement des hommes. Mais pourquoi parler du consentement ? On écoute tout d'abord Claudine Révillon, qui a organisé notre venue au collège, au lycée, pardon.
Bien, l'an dernier, au lycée, une élève de terminale a subi des attouchements dans la classe pendant un TP de physique de la part de ses camarades garçons. Elle a mis 8 mois avant d'en parler. Et quand elle en a parlé, honnêtement, ça a touché peu de personnes. Je me suis rendu compte qu'on arrivait sur une génération de jeunes filles qui avaient honte de dire qu'elles pouvaient subir des choses que l'on ne doit pas accepter, filles ou garçons. Et ça m'a vraiment questionnée sur l'idée que, par peur de se faire remarquer, par peur de se faire juger, par peur aussi de ne pas être forcément dans les codes, parce que les filles doivent être libérées aujourd'hui et accepter beaucoup. Je pense qu'il y a une sorte de, je sais pas, contre-féminisme qui arrive et que les filles arrivent dans une situation où dire non, c'est presque renoncer à la liberté qu'on leur aurait offerte ou que des années de lutte auraient offerte. Et dire non, ce serait... aller à l'encontre du combat qu'on aurait mené et elle n'ose plus. Moi, ça m'avait beaucoup questionnée et je me suis dit que j'allais pas agir dans la vie privée de chacun parce que c'est pas du tout mon rôle. Mais par contre, ne serait-ce que de les faire réfléchir et de leur demander de se repositionner sur est-ce que j'ai envie ou pas, ça me semblait important.
Des attouchements en salle de classe et dans la cour, des situations banales et malheureusement banalisées.
Alors le rôle de l'adulte, c'est proposer un lieu de parole, permettre à la parole de passer de l'un à l'autre, c'est ce que Claudine a permis et a organisé, faire réfléchir, aider à créer de la pensée, vérifier nos priorités d'adulte, ça c'est important.
Alors qu'est-ce que j'accepte ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment comprendre quand l'autre veut dire non ? Ce sont les questions que les jeunes se posent. Et Tom nous propose des questions-réponses, une sorte de guide pratique du consentement.
Alors, je suis jeune et plein d'énergie. Et j'aimerais bien me lier avec une fille ou autre, ça dépend de votre genre, c'est comme vous voulez. Et je me demande comment bien faire les choses. Alors, dites-moi, si je suis attablé avec elle et que je lui touche la main et qu'elle recule, je continue ?
Alors... si elle recule la main, c'est quand même très clair qu'elle refuse ce contact. Donc déjà sur un plan stratégique au niveau drague, je suis pas sûre que ça fasse son effet d'insister. Et puis c'est quand même un refus. Elle a pas donné son consentement. Au contraire, le fait qu'elle retire sa main veut dire quand même non. Donc non, on n'insiste pas.
Ah bah, bon, du coup, je vais aller dans la rue, je vais essayer de draguer. Je suis sûr que je suis très bon à ça. Du coup, je vais draguer une fille, et elle m'ignore. Ça se trouve, elle m'a pas entendu. Est-ce que je reviens ?
Alors ça s'appelle du harcèlement, c'est puni par la loi, et c'est pas bien, donc non.
Ah !
90, hein ?
Je sais plus.
90 euros.
D'accord. C'est pas cher payé. D'accord, je n'ai pas envie de payer ni d'aller en prison, alors je vais éviter... Bon, du coup, imaginons que j'ai enfin réussi à sortir avec une fille. Et que, du coup, on décide d'un commun accord de venir chez moi. Et du coup, je lui propose d'unir nos corps. Elle refuse timidement. J'insiste. Peut-être que c'est juste à cause de sa timidité.
Non. C'est pas une histoire de timidité. Si elle a pas envie, laisse-la tranquille.
Séquestration aussi, c'est puni.
Et la porte est ouverte.
Si elle dit rien, ça veut pas forcément dire oui. Ça veut, si elle dit pas oui, c'est pas oui. Si c'est un silence, n'est pas un oui.
Et si elle dit non, c'est non.
Alors, je décide d'aller en soirée. Je vais voir si je peux aller rencontrer des nouvelles filles. En effet, peut-être que le courant passera avec l'une d'entre elles. Et cette soirée est assez alcoolisée. D'ailleurs, la plupart des gens sont alcoolisés, y compris les filles. Et du coup, j'en croise une qui est très éméchée. Je la vois, elle a du mal à parler. Limite, je sens qu'elle va tomber dans 5 minutes. Je sens que j'ai une attirance très forte envers elle. Et si j'en profitais pour lui montrer la force de mon amour.
Alors, si elle n'est pas en état, donc comme tu l'as dit, si elle est alcoolisée, elle n'est pas en état de donner son consentement. C'est comme si elle était droguée ou autre. Donc si elle n'est pas en état de donner son consentement, si elle n'est pas claire, si elle n'est pas sobre, elle ne peut pas donner son consentement, donc c'est non.
Apparemment, dire non, c'est plutôt à la mode en ce moment. Et si elle me dit non, c'est négociable ou pas ?
Non plus. Non, il n'y a pas de... Ouais, les filles, elles disent non, mais elles pensent oui. C'est quand on dit non, c'est non. Et il n'y a pas à les chercher plus loin.
Ok, non, c'est non. Bon alors, du coup, je retourne dans la rue. Je vois beaucoup de filles qui ont des vêtements moulants. Très franchement, ça m'excite un tout petit peu, je vous l'avouerai. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles veulent forcément le faire ?
Ben non, c'est si elles se plaisent, si elles aiment porter des vêtements, elles font ce qu'elles veulent. Et c'est pas parce qu'elles portent des vêtements moulants ou décolletés ou je ne sais quoi qu'elles ont envie de forcément avoir des rapports ou autre, ou même envie de draguer. C'est juste qu'elles sont bien et elles sont bien comme ça.
D'ailleurs, un des slogans de l'association Stop Harcèlement de Rue, c'est « Ma jupe n'est pas une invitation à la drague ».
D'ailleurs, la loi française comprend la liberté d'expression. La façon de s'habiller, ça passe par là. Donc, si elle a envie de mettre un décolleté, si elle a envie de mettre des vêtements moulants, on ne reproche pas à un garçon d'avoir un t-shirt trop moulant. Pourquoi est-ce qu'on le reprocherait à une fille ?
Donc, au risque de paraître pour un pervers, imaginons que je sois enfin casé, on va dire, en couple avec une petite amie. Elle refuse que je la touche, alors que c'est ma petite amie, mais bon, pourtant ça devrait être automatique. Est-ce que je fais ? C'est peut-être une colère passagère après tout. J'insistais.
On ne possède pas quelqu'un, ça s'appelle de l'esclavagisme aussi. Je suis assez pointu sur les termes et les définitions. Mais dire c'est ma petite amie et donc nous sommes liés ad vitam aeternam, il y a un truc qui s'appelle le divorce aujourd'hui de 1. Et puis techniquement, si c'est ta petite amie, non, ça reste un être humain. Donc tu ne peux pas la posséder, ce n'est pas ta petite amie. Et si la personne dit non, elle dit juste non et tu fais ok, d'accord, je te laisse tranquille.
Voilà, et si on donne son consentement une fois, ça ne veut pas dire qu'on la donne pour qu'on le donne pour toutes les autres fois. Donc, le consentement, c'est quelque chose qui n'est pas ad vitam aeternam.
Et j'ai bien peur que si tu vas un peu dans la contrainte, que ça soit assimilé à du viol.
Qui est un crime.
Oui, le viol conjugal compte, il me semble. Alors, c'est pas dans tous les pays. Hein. Je tiens à préciser quand même, c'est une petite avancée à faire. Mais en France, il est pris en compte le viol conjugal. Il me semble qu'aux États-Unis, il ne l'est pas.
Oui, mais on est en France, ouais. Donc là, pour l'instant, c'est ça qui prévaut.
Et même si vous êtes aux États-Unis, évitez de le faire quand même.
Oui, c'est mieux.
Donc, merci à vous. Grâce à vous, je ne serai peut-être pas un forceur. Mais par contre, j'ai une dernière question. Récemment, j'ai rencontré une fille très jolie qui, le courant, passe bien. Le problème, c'est que j'ai d'énormes doutes sur son âge. Je la soupçonne carrément d'avoir en dessous de 15 ans. Est-ce que je devrais quand même y aller ? Ou apparemment, il y a eu une loi récemment.
Non, demande son âge parce que la majorité sexuelle en France est à 15 ans. Donc, s'il t'arrive d'avoir une relation sexuelle avec une personne qui a moins de 15 ans alors que tu es majeur, c'est assimilé à du viol ou à du détournement de mineur. Donc, là aussi, il y a amende, prison, etc.
Bon, bah merci à vous. Je vais éviter de faire du détournement de mineur. Ça ferait déjà un long casier judiciaire. Et donc, je vous remercie. Peut-être que je serai effectivement une bonne personne grâce à vous. Merci.
Merci, Tom. Alors, dans le rôle du jeune homme à l'affût, Tom, merci à toi. Et merci à Clémence, Laura, Maureen et Païkan pour leurs réponses très affirmées. Droit devant, on reste toujours dans ce thème. En mars dernier, le terme « consentement » entre dans la loi écrite au sujet de la sexualité et fixe la majorité sexuelle à 15 ans. Une précision quand même par rapport à ce qu'on vient d'entendre dans le question-réponse de Tom. On parlait de détournement de mineurs. En fait, le détournement de mineurs, ça désigne, selon la loi, le fait de soustraire sans fraude ni violence un enfant mineur à aux mains de ceux qui exercent une autorité parentale ou auxquels il aurait été confié, ou chez qui il a ses résidences habituelles. Donc en fait, cette notion est indépendante de celle de savoir si l'auteur du délit a eu des relations sexuelles ou pas avec le mineur enlevé. Un détournement de mineur ne peut pas être constitué uniquement par les relations sexuelles s'il n'y a pas eu d'enlèvement. Voilà.
Merci Joël pour cette explication, parce que c'est vrai que bien souvent on confond un petit peu tous ces termes.
Oui.
Alors Laura, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, il me semble.
Pour ma part, j'en ai profité pour aller voir ailleurs comment ça se passe. Si en France, le mot consentement a fait son entrée dans nos textes récemment, on distingue en France, en Europe et dans le monde entier une différence entre deux termes, majorité sexuelle et âge de consentement. La première figure généralement dans les textes de loi internationaux, mais varie en fonction des pays. C'est-à-dire que la majorité sexuelle est fixée à 15 ans en France, comme au Danemark ou en République tchèque, mais elle est par exemple à 14 ans en Autriche ou au Portugal, et ça peut aller jusqu'à 18 ans à Malte, en Turquie ou au Vatican. Donc ça fait une très large différence. Et plus encore dans le monde, car certains pays exigent le mariage, ou dans le cas de la Bolivie, c'est autorisé dès la puberté. En revanche, l'âge de consentement, lui, est plus tabou et ne figure pas, ne figure que dans très peu de lois. Et là encore, il y a de très gros écarts entre les exigences de certains pays. C'est-à-dire qu'il est fixé à moins de 14 ans au Royaume-Uni ou en Espagne, mais à plus de 15 ans au Danemark ou en Suisse. Donc là encore, très grosse différence, mais très peu de pays exigent un âge de consentement. Effectivement, est-ce qu'il faut définir un âge de consentement précis? Est-ce que ça ne dépend pas de la personne? Ce sont beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse donnée et qui empêchent peut-être l'apparition d'un âge de consentement dans nos lois.
C'est vrai qu'au Sénat, c'était vraiment la discussion et il y avait un groupe de travail au Sénat qui justement ne voulait pas donner un âge de consentement. Comme tu dis, c'est le tabou. C'est un tabou, à un certain moment, tu disais. Effectivement, il y a des gens qui disaient inscrire dans la loi, c'est compliqué. Et je sais pas, on peut se demander, la puberté, des fois, ça fait un peu jeune, hein.
Après, il y a des études scientifiques qui ont été menées sur la formation du cerveau, etc. Et du coup, qui ont découlé la capacité à dire oui ou non par rapport à ça. Et je pense que c'est sur ça que se sont basées un petit peu les personnes qui ont réfléchi à ça.
Merci, en tout cas, de ce travail. Alors, merci Laura pour ces recherches qui donnent une idée beaucoup plus large que simplement ce qui se passe ici. C'est vraiment bien.
Ça permet de mettre un peu en perspective aussi.
Ouais. Alors, on est toujours sur Radio B, il n'y a pas que 8 mars. Restez avec nous dans quelques instants. On se retrouve pour une sélection culturelle concoctée par nos jeunes encore, par les jeunes, pardon. Culturels.
Ce mois-ci, ce sont les lycéens et lycéennes qui portent cette rubrique culturels. Donc des films, des chansons, des bouquins, de quoi passer de bons moments. Païkan, on commence avec la Fashion Week de Paris Printemps-Été 2017.
Exact, c'est totalement mon truc. Maria Grazia Chiuri faisait ses débuts en tant que directrice artistique de Dior, une révolution dans le monde du luxe. En effet, ce fut la première fois qu'une femme fut élue à la création de cette célèbre maison française. Son premier défilé fut entre autres marqué par un t-shirt au slogan féminisme, la traduction française étant « Nous devrions tous être féministes ». Un extrait. Notre façon d'éduquer les garçons les dessert énormément. Nous réprimons leur humanité. notre définition de la virilité est très restreinte. La virilité est une cage exiguë, rigide, et nous y enfermons les garçons. Nous apprenons aux garçons à redouter la peur, la faiblesse, la vulnérabilité. Nous leur apprenons à dissimuler leur vrai moi, car ils sont obligés d'être, dans leur parler nigérien, des hommes durs. Au lycée, un garçon et une fille, adolescents, sortent avec un peu d'argent de poche. Pourtant, c'est toujours le garçon qui doit payer. L'addition pour prouver sa virilité. Ce qui ne nous empêche pas de nous demander pourquoi les garçons ont davantage tendance à voler de l'argent à leurs parents. Si nous inculquions aux garçons et aux filles qu'il ne faut pas faire de lien entre virilité et argent, et si l'idée n'était pas aux garçons de payer, mais aux plus riches de payer. Évidemment, du fait de leur supériorité historique, ce sont surtout les hommes qui sont les plus riches aujourd'hui. En revanche, si nous commençons à élever les enfants autrement, dans 50 ans, dans 100 ans, les garçons n'auront plus à prouver leur virilité par des moyens matériels. Mais ce que nous faisons de pire aux hommes, en les convainquant que la dureté est une obligation, c'est de les laisser avec un ego très fragile. Plus un homme sent contraint d'être dur, plus son ego est faible. Quant aux filles, nos torts envers elles sont encore plus graves, parce que nous les élevons de façon qu'elles ménagent l'ego fragile des hommes. Nous apprenons aux filles à se diminuer, à se sous-estimer. Nous leur disons « tu peux être ambitieuse, mais pas trop ». Tu dois viser la réussite sans qu'elle soit trop spectaculaire. Sinon, tu seras une menace pour les hommes. Si tu es le soutien de la famille dans ton couple, feins de ne pas l'être, notamment en public. Faute de quoi, tu les masculeras. Et si nous remettions en question ce principe lui-même, pourquoi faudrait-il que la réussite d'une femme soit une menace pour un homme? Et si nous bannissons le mot « émasculation » de notre vocabulaire, je ne crois pas qu'il existe un mot que je déteste plus que celui-ci.
Païkan, moi j'ai très envie de savoir ce que tu penses du coup de ce discours parce que tu es concerné.
Pas du tout.
Bon, tu ne serais pas un homme. Enfin, après la définition, hein, on sait qu'elle est fluctuante.
Qu'est-ce que j'en pense de ce discours? Ben, je trouve qu'il est intéressant parce qu'on met l'accent sur l'éducation et c'est l'éducation qui fait tout aujourd'hui. Et cette espèce de transmission de clichés, pas un cliché héréditaire par le sang et donc par le sexe, mais un cliché héréditaire par l'éducation. Moi, étant en contact un peu avec la religion sans être religieux, on voit que c'est un vecteur important de transmission et que ça fait partie de la culture en général. Et du coup, ouais, je suis plutôt d'accord. Sauf pour le truc de payer, parce que je suis radin.
Pour faire une transition musicale avec ce roman, parlons de Beyoncé avec Maureen, si tu veux bien.
Oui, cette chanteuse américaine incontournable de notre époque a enregistré une chanson il y a quelques temps qui s'appelle « Flawless ». Qui peut être traduit par « parfait » en français, et qui reprend les paroles de Chimamanda Ngozi Adichie pour apporter son soutien à la cause féministe.
Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
You wake up, post up, run around in it, blossom on it, this diamond, my diamond, this rock, my rock. I woke up like this, I woke up like this, we flawless. Ladies, tell them I woke up like this, I woke up like this, we flawless. Ladies, tell them say.
Alors, pour ceux ou celles qui ne comprennent pas l'anglais, je vous propose une petite traduction. On apprend aux filles à rester sages, à se faire discrètes. On leur répète « Tu peux avoir de l'ambition, mais pas trop. Tu peux vouloir du succès, mais pas trop, sinon tu seras une menace pour l'homme. Parce que je suis une femme, on attend de moi que je me marie, on attend de moi que je fasse des choix, tout en ayant bien à l'esprit que le mariage est la chose la plus importante, que le mariage procure bonheur et amour, ainsi qu'un soutien mutuel. Mais on dit ça à un homme ? On élève les filles à être meilleures que les autres, mais pas dans le travail ou la réussite, ce qui pourtant, à mon avis, serait une bonne chose. Mais à paraître parfaite aux yeux des hommes, on apprend aux filles qu'elles n'ont pas à avoir de désir sexuel comme les hommes en éprouvent. Elle donne également la définition de féministe, selon l'autrice, c'est-à-dire une personne qui croit à l'égalité sociale, politique et économique entre les sexes différents. Donc ici, Beyoncé chante le discours de Chimamanda, qui met l'accent sur les stéréotypes que l'on côtoie tous les jours, ou en tout cas que toutes les femmes connaissent. Et comme les paroles le disent, ça commence dès l'enfance avec l'éducation que l'on reçoit. Ensuite, je pense que vous avez entendu qu'elle répète pas mal de fois « flawless », donc c'est le titre de la chanson, et c'est pour dénoncer cette image parfaite que doit avoir la femme, cette figure qu'on lui impose en toutes circonstances. Et ça, dès le réveil, avec « I woke up like this », qui veut dire en soi « je me réveille comme ça ».
Alors, Beyoncé a emprunté une partie du discours de Chimamanda Ngozi Adichie. Qu'est-ce qu'elle en pense, l'autrice ?
Eh bien, elle voit ça d'un très bon œil, puisque c'est vrai que beaucoup de personnes, et moi la première, n'auraient jamais entendu parler de son livre. Beyoncé, c'est une star, une idole, et principalement pour les jeunes. Alors comme ça, elle amène le féminisme à la portée de tous. Et son influence est directe, puisqu'elle peut vraiment être vue comme une figure d'autorité pour certaines personnes. Elle a d'ailleurs été élue la femme la plus influente du monde en 2014 par le Times, qui est un magazine hebdomadaire américain.
Et selon toi, est-ce qu'on peut voir ça comme une bonne pub pour le féminisme ?
Eh bien, Beyoncé, c'est aussi une figure critiquée car elle est très sexy autant dans ses clips que sur scène. Du coup, certaines personnes disent qu'elle ne prend pas forcément la défense des droits de la femme en se vendant un peu comme une marchandise dans certaines situations. Mais pour Beyoncé, choisir d'être féministe n'a rien à voir avec votre féminité, ni avec la masculinité d'ailleurs. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis.
Et c'est vrai que c'est très à la mode, hein, parce que là vient de sortir une chanson qui s'intitule « And Your Mama ». Nous ne sommes pas vos mamans, de Jennifer Lopez. Alors moi, à l'époque, hein, parce que je ne suis plus aussi jeune que vous, je me souviens que c'était les Spice Girls qui prenaient le girl power. Je ne sais pas si vous avez entendu leur titre.
Et c'est vrai que le féministe s'invite un peu partout, et également au cinéma dernièrement, et c'est encore une bonne chose pour le démocratiser. N'est-ce pas, Clémence ?
Ben oui, parce que l'industrie du cinéma a longtemps été critiquée sur la question de son rapport aux femmes. Donc en effet, les rôles féminins sont souvent cantonnés à des clichés. Donc les femmes sont éloignées de l'action, elles ont besoin d'être protégées, elles sont hystériques dans les relations amoureuses et elles gloussent en troupeau dans beaucoup de films. Mais les choses ont récemment commencé à changer, et c'est bien comme dans le dernier film des studios Marvel, Black Panther. Donc c'est un blockbuster réalisé par Ryan Coogler et qui est déjà annoncé comme l'un des plus gros succès internationaux de 2018. Donc il a récolté beaucoup de critiques très positives, notamment en mettant en scène une majorité d'acteurs de couleur d'origine africaine. Mais ce film n'est pas seulement un exemple en matière de diversité du casting, puisque le rôle des femmes dans l'intrigue est très important et les femmes ne sont pas caricaturées. Par exemple, on peut voir une armée de guerrières agir aussi efficacement que des hommes. Donc ce groupe est constitué de femmes fortes qui ne correspondent pas aux clichés donnés par l'industrie cinématographique depuis toujours. Elles n'ont pas de cheveux longs, ne sont pas toutes habillées en rose, elles sont indépendantes et n'ont pas besoin d'un homme pour les diriger. Donc ce genre de représentation a un réel impact sur le public en inspirant les femmes et en leur prouvant que oui, une femme peut être forte et indépendante. De plus, un personnage féminin retient particulièrement l'attention, donc c'est le personnage de Shuri, une jeune fille de 16 ans. Donc elle est ingénieure et elle est décrite comme l'une des personnes les plus intelligentes du monde. Elle sait également se battre, possède un humour franchement terrible et invente des technologies incroyables. Donc maintenant, pensons à une fille de 10-12 ans venue au cinéma pour voir le film. Donc ces représentations de femmes fortes peuvent l'inspirer à poursuivre ses rêves, à ne pas avoir peur de se lancer et plus que tout, à faire bouger les choses. Donc toutes ces filles représentent l'avenir du combat féministe.
Notre émission touche à sa fin. Vous venez d'écouter « Y'a pas que 8 mars », une émission animée aujourd'hui par Clémence, Constance, Maureen, Païkan, Tom, Laura, Joël et Alicia. Merci à Pauline, notre technicienne, pour la réalisation. Spéciale dédicace à Louise, dont vous pourrez voir les esquisses sur notre page www.radio-b.fr, et à Claudine, initiatrice de ce « Il n'y a pas que lui mars » de mai. Mais parce qu'en une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité, parce que 24 heures, c'est trop peu pour aborder l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde, l'utilisation de l'image pour les femmes pour vendre du shampoing, une cuisinière ou une voiture. Rendez-vous le lundi 4 juin pour notre prochaine émission. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radio-b.fr.
Nous embauchons en direct.
Eh oui.